Nous abordons le chapitre 56 du prophète Ésaïe. Et encore une fois, je vous encourage à ne pas vous contenter d'un repas par semaine, mais de manger tous les jours, de prendre un petit déjeuner tous les jours, un repas du midi, un repas du soir. Et j'étais frappé en préparant ce passage, ces deux chapitres, 56-56, de voir tout ce qui a déjà été rappelé dans l'étude de Galates, comment la parole de Dieu est harmonieuse. Il n'y a pas des choses qui contredisent d'autres choses. Si elles nous paraissent contredire d'autres choses, se contredire, c'est que nous les avons mal compris. Mais vous verrez avec moi, pour ceux qui ont pu suivre l'étude, qui est disponible d'ailleurs en ligne, combien des mêmes thèmes sont repris par Paul dans ses épîtres, et ça ne devrait pas nous surprendre. Il était un hébreu des hébreux, il avait été formé à l'étude de la Torah, des prophètes, des écrits, il connaissait le prophète Ésaïe. Jésus a beaucoup cité le prophète Ésaïe, qu'on qualifie parfois de prophète messianique parce qu'il annonce très clairement le salut qui arrive par Jésus-Christ. Nous allons voir aussi que un principe que l'on trouve dans la parole, c'est que Dieu tempère nos émotions, dans le sens où il abaisse les orgueilleux, il relève ceux qui sont humbles. Nous allons voir qu'il réconforte les affligés et qu'il a tendance à affliger ceux qui sont trop confortables. Et cet équilibre, c'est aussi une des caractéristiques de la parole. Dieu est un Dieu d'équilibre, un Dieu d'amour, un Dieu qui nous reprend lorsque nous nous écartons, mais qui continue de nous aimer, qui va nous exhorter lorsque nous écartons de ses chemins, de sa voie, mais qui va aussi nous conforter lorsque nous sommes déprimés, lorsque nous nous sentons trop loin de lui, lorsque nous pensons qu'il ne peut plus nous pardonner. C'est le réconfort de Dieu pour ceux qui sont affligés. Et il y a aussi, on va voir, l'affliction de ceux qui sont trop confortables dans leur position. Vous vous souvenez que Jésus, dans le Nouveau Testament, il y avait un groupe qui l'exaspérait au-dessus de tous. Il avait de la compassion, de l'amour, de la patience pour beaucoup de pécheurs, les prostituées, les publicains, ceux qui reconnaissaient leurs péchés, mais il avait de la haine, de la colère pour les serviteurs de Dieu, ceux qui se cachaient derrière la religion pour hypocritement vivre une vie de péché à l'intérieur et une vie de piété à l'extérieur. Et là aussi, c'est pas quelque chose qui démarre dans le Nouveau Testament, on va le voir dans l'Ancien Testament. Lisons ensemble à partir du verset 1 du chapitre 56. Ainsi parle l'Éternel, observez le droit et pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice de se révéler. Pardon. Heureux l'homme qui fait cela et le fils d'Adam qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne pas le profaner et gardant sa main de toute œuvre mauvaise. Arrêtons-nous là juste un instant. Encore une fois, les paroles de Ésaïe sont les paroles qu'il a reçues de Dieu, donc il parle par sa voix, par ses écrits. Et nous aussi, si nous sommes fidèles à sa parole, nous pouvons parler aux autres. L'Éternel peut parler aux autres par notre intermédiaire. Il leur dit « Observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut est sur le point d'arriver et ma justice de se révéler. » Il leur dit que quelque chose de bon va arriver, Le salut, on a vu que ce salut va arriver par son serviteur, qui est une annonce du sacrifice de Jésus-Christ, de Jésus-Christ, de son sacrifice. Le salut, nous l'avons vu, il était offert à tous, au chapitre 55. « Ô vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n'a point d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Il nous remettait en garde, il nous mettait en garde contre la façon dont nous vivons nos vies en nous souciant de choses qui ne sont pas dignes de souci. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain? Pourquoi peinez-vous pour ce qui ne se rassasie pas? Écoutez-moi donc et mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mes succulents. Là, il dit, et on va voir l'invitation qui était déjà pour tous ceux à la surface de la terre qui reconnaissent leur soif. Nous avons tous soif. Nous avons tous besoin d'eau. Et des fois, peut-être, votre docteur vous dit de boire 3 bouteilles d'eau par jour pour une analyse ou quelque chose, et on dit, oh, c'est pas possible. Mais sans s'en apercevoir, on boit beaucoup d'eau parce que notre corps est fait, je suis pas médecin, mais je crois que c'est énorme, quelque chose comme 75% ou 80%, c'est de l'eau. Et même peut-être un peu plus. Et là, il va dire que ça s'est ouvert, ce salut qui est sur le point d'arriver, il est ouvert pour même ceux qui étaient exclus de l'ancienne alliance. Et on va y revenir dans un instant. Mais le salut est universel. Et ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment intégrer dans votre pensée. Ne pas vous dire, bon, mais mon ami musulman, il a son Dieu. Non, s'il n'a pas le Dieu de la Bible, il n'a pas de Dieu. Il a un faux Dieu. Ainsi, par l'Éternel, observez le droit et pratiquez la justice. Dieu nous demande de nous comporter selon ses préceptes. Observez le droit. Pratiquez ce qui est juste. Pourquoi ? Parce qu'il nous fait une promesse dans le futur. Et nous, on a tendance à dire, montre-moi d'abord la promesse et après je vivrai. C'est un peu comme les gens qui disent, je commencerai à payer la dîme une fois que je gagnerai bien ma vie. En fait, non. La foi, c'est d'obéir sans être sûr de comment Dieu va pouvoir faire pour que vous ayez de quoi payer votre loyer, de quoi acheter la nourriture nécessaire à votre famille. Mon salut est sur le point d'arriver, c'est une promesse. Par la foi, vous devez la recevoir et en conséquence, observer le droit et pratiquer la justice. Heureux l'homme qui fait cela, le fils d'Adam qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne pas le profaner. Le sabbat, dans l'ancienne alliance, était une prescription, on devait s'arrêter de travailler un jour la semaine pour honorer Dieu. Et Jésus, dans le Nouveau Testament, a expliqué qu'en fait le sabbat était créé pour l'homme. L'homme n'était pas créé pour le sabbat. C'est pour notre bien que Dieu nous dit de nous arrêter un jour par semaine. Et notre société a tendance à dire on n'a pas le temps de s'arrêter. Et je crois que on serait tous plus équilibrés, en meilleure santé, physique et spirituelle, émotionnelle même, si on prenait vraiment le temps de consacrer une journée à se reposer en la présence de Dieu. Et moi qui vous parle, je suis souvent le plus coupable pour ça. Et c'est pas quelque chose dont il faille se vanter, de dire qu'on s'arrête jamais, parce que Dieu nous a fait de telle façon qu'on a besoin. Alors il s'agit pas de s'arrêter 6 jours par semaine et de travailler un jour. On a toujours tendance à dire, ah bon, d'accord, le pasteur a dit, il faut se reposer. Mais c'était une façon d'obéir à Dieu. Et là, on a vu aussi que ces jours et ces prescriptions, c'était qu'une ombre des choses à venir. Notre vrai repos, nous l'avons en Jésus-Christ. Et dans Galates, par exemple, Galates 4, 10, si vous vous souvenez, ceux qui ont fait l'étude, où Paul expliquait que la loi était une bonne chose qui nous avait conduit à la foi en Jésus-Christ, au salut par la foi. Mais notre tendance, c'est toujours de revenir à la loi, suivre des règles. C'est plus facile de suivre des choses extérieures que de se laisser transformer de l'intérieur. Une liste de choses à faire, on peut prendre son petit crayon et faire des petites marques. Oui, je suis allé à l'église dimanche. Oui, j'ai lu mon passage aujourd'hui. Oui. Et ne pas laisser Dieu nous interpeller de l'intérieur, Dieu nous transformer. Et Paul disait donc, vous avez tendance à revenir et à observer les jours, les mois, les temps, les années. Et il leur dit tout de suite après, je crains d'avoir inutilement pris de la peine pour vous. Autrement dit, si vous en êtes encore à suivre des prescriptions extérieures, c'est que vous n'avez pas compris le message de l'intérieur. La foi, Dieu nous transforme, il va nous dire qu'il n'y a pas seulement un jour avec le Seigneur. Tous les jours sont des jours avec le Seigneur. Chaque matin, on peut dire au Seigneur, voilà, je suis devant toi, dis-moi ce que tu veux que je fasse aujourd'hui. C'est tellement une préoccupation de Paul de bien rappeler que le sabbat, c'était l'ancienne alliance, dans le sens où le jour du samedi, dans Colossiens 2, 16, il exhortait les habitants de cette région de Colosse, verset 16 du chapitre 2, « Ainsi donc que personne ne vous juge à propos de ce que vous mangez et buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de sabbat. Pourquoi ? Parce que tout cela n'est que l'ombre des choses à venir, mais la réalité est celle du Christ. » Tout l'Ancien Testament, c'est une annonce de la venue de Christ. Les prescriptions concernant le péché, les sacrifices, ça a l'air très compliqué. Et c'est vrai que c'est compliqué, et c'est donné dans le sens où pour nous montrer que le péché est grave. Si on vous dit, j'utilise cette illustration souvent, si on vous dit qu'il suffit de prendre un peu d'aspirine pour votre malaise, vous êtes rassuré, vous dites, bon, ben c'est qu'un truc à aspirine, ça va. Par contre, si on vous envoie faire des analyses approfondies, des scanners, des IRM, que les docteurs se réunissent à plusieurs pour examiner vos radios, vous savez que c'est plus grave. Et toutes les prescriptions de l'Ancien Testament concernant le péché, concernant les sacrifices, c'est simplement pour nous montrer que le péché, c'est grave. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut balayer sous le tapis. Et ce péché, il n'y a rien de moins que le sacrifice de Jésus-Christ pour nous libérer des conséquences de la mort, de la présence, de la puissance de ce péché. Il faut la toute-puissance de Jésus-Christ. Mais une fois qu'on a Jésus-Christ, utiliser ce qui n'était qu'une ombre des choses à venir, c'est un peu comme si Nancy se promenait sur la promenade des Anglais et je prenais sans arrêt des photos de son ombre. Que je me baisse sur le trottoir et que je fasse des bisous à son ombre. Alors qu'elle est là, qui marche à côté. C'est aussi ridicule de s'attacher aux prescriptions de l'ancienne alliance que de vivre la réalité de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Mais là, le prophète Ésaïe était encore dans le cadre de cette ancienne alliance et l'obéissance à Dieu, c'était d'observer encore ces choses comme le sabbat pour ne pas le profaner, garder sa main de toute œuvre mauvaise. On sait que les religieux de l'époque de Christ s'attachaient tellement à ces prescriptions qu'ils avaient codifié. Le Seigneur disait « respectez le jour du sabbat ». Jésus explique qu'en fait, ce n'était pas pour lui, mais c'était pour nous. Pour qu'on ait un temps où on se sente proche de lui, qu'on puisse se reposer, qu'on ait aussi cette intimité avec Dieu. Eux avaient compliqué les choses au point de dire, vous pouvez porter jusqu'à un demi-gramme de sel, mais attention, au-delà, c'est un péché. Parce que ce n'est plus du repos, le dimanche, le sabbat, si vous portez du sel. C'est du travail. Il ne faut pas travailler le jour du sabbat. Ils arrivaient à pinailler au point où ils avaient complètement perdu de vue la destination de ces commandements qui étaient faits pour notre bien. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera sûrement de son peuple ». Que l'eunuque ne dise pas « Je ne suis qu'un arbre sec » car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui demeureront fermes dans mon alliance, je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un monument et un renom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera jamais retranché. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le profaner et qui demeureront fermes dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière, pour tous les peuples. On va lire le dernier verset. Oracle du Seigneur, l'Éternel, lui qui rassemble les bannis d'Israël, j'en rassemblerai d'autres avec les siens déjà rassemblés. Dieu s'était révélé aux Juifs. Dieu avait choisi Abraham pour lui donner une descendance et à travers tous ceux qui croiraient en lui une descendance qui toucherait toutes les nations de la terre, il allait faire arriver un Messie par la semence d'Abraham qui allait bénir toutes les nations de la terre. Les Juifs avaient été choisis comme la première famille de la terre à recevoir le message de Dieu, d'amour de Dieu, de recevoir en son sein le Messie de Dieu. Dieu, s'il voulait venir sur la terre, devait atterrir quelque part. Je dis des fois, il aurait pu atterrir chez les Corses, les Bretons. Il a choisi d'atterrir chez les Juifs. Gloire à Dieu pour eux. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris qu'en fait, Dieu voulait les utiliser pour bénir le reste de l'humanité. Ils ont pris ce qui était un privilège comme quelque chose qui leur était dû. Ils ont pensé que c'était parce qu'ils étaient des gens spéciaux que Dieu les avait choisis. Non, Dieu les avait choisis avant même qu'ils n'existassent. Qu'ils n'existassent ? Waouh ! Un subjonctif imparfait. Avant leur existence. Pardon, on peut effacer ça sur l'enregistrement. Ils n'ont pas voulu. Ils ont gardé ça comme un signe d'orgueil. Waouh, on a été choisis par Dieu. Nananananer. Vous, on ne vous parle pas. Vous êtes des moins que rien. L'ancienne alliance disait aussi qu'un homme qui n'avait pas son intégrité ne devait pas participer aux réunions de l'assemblée. La Bible est un livre très très direct. On va lire dans le Deutéronome 23, 2. Et là, c'était pour montrer que pour s'approcher de Dieu, il fallait certaines caractéristiques. Il y avait certaines personnes qui étaient exclues de l'assemblée, notamment verset 2, « Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. » Un bâtard n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel, même sa dixième génération n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. L'ammonite et le moabite n'entreront pas dans l'assemblée, etc. Il y avait donc ils étaient stigmatisés, ces personnes. Mais là, Dieu dit que ça c'était pour un temps. Et que même ces gens qui étaient exclus au départ de l'assemblée, ils vont être bénis par Dieu. Ils vont Ils vont faire partie du peuple de Dieu. Et ça sera valable aussi pour les étrangers, pour les goïms, pour les païens, pour les non-juifs. Encore une fois, l'amour de Dieu, il est pour tous les hommes, toutes les femmes. Il n'y a aucune groupe ethnique, aucune discrimination dans l'amour de Dieu. Dieu aime tous les hommes. Et c'est pour ça qu'il s'est incarné en un homme pour venir prendre nos péchés en Jésus-Christ, pour que tous nous puissions aller à lui. Encore une fois, c'est parce que Jésus était parfait que ces gens imparfaits que nous sommes peuvent s'approcher de Dieu. Au départ, la loi disait non, il faut respecter les 10 commandements. On a vu avec l'étude de Galates que les 10 commandements s'étaient donnés pour nous montrer qu'on ne pouvait pas y arriver tout seul. On en est incapable. Mais Jésus, lui, a respecté ses 10 commandements. Et par notre foi en lui, nous sommes reçus par Dieu. Nous avons accès au trône de la grâce. Nous avons accès à Dieu. Et l'eunuque, eux qui disaient « j'ai pas d'enfant, je suis un arbre sec », il va donner une descendance qui sera préférable à des fils et à des filles. Il leur donnera un nom éternel qui ne sera jamais retranché. Ce qui est un paradoxe, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de fils, par qui dans cette société le patrimoine se transmettait, le nom se transmettait. Mais il va leur donner un monument et un renom. Peut-être que si vous êtes allé à Jérusalem, ou si vous avez peut-être entendu parler du sanctuaire, c'est pas un sanctuaire, c'est un endroit qui s'appelle Yad Vashem. Yad Vashem, c'est un mémorial à la cause de l'Holocauste, où on peut voir des photos, des choses qui avaient été portées par les Juifs qui ont été déportés en Allemagne ou dans le Reich, qui ont souffert l'Holocauste. Et ça s'appelle Yad Vashem. Yad Vashem, ça veut dire un monument et un renom, une renommée. Shem, c'est le nom, et Yad, c'est le monument, le bâtiment, un endroit. Et en fait, cet endroit qui rappelle l'Holocauste, qui mémorialise l'Holocauste, c'est une citation directe de Ésaïe 56, 5, Yad Vashem. Ces gens qui sont morts, Dieu les connaît, il leur donne un renom, il sait ce qu'ils ont enduré, et ces eunuques qui étaient d'abord exclus, maintenant Dieu va les accepter. C'est cette promesse, parce que le salut est sur le point d'arriver. Les étrangers qui cherchent à connaître Dieu, à le servir, et ça désigne tous ceux d'entre nous qui n'ont pas de sang juif, qui n'ont pas d'ancêtres juifs directs. On descend tous d'Adam et Ève, mais après il y a eu Abraham et certaines personnes. Nous sommes tous des héritiers d'Abraham par la foi. Mais Dieu a gardé son plan pour les Juifs. Pour ceux qui s'attachent à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être serviteur, tous ceux qui garderont le sabbat, donc là on comprend que ça ne veut pas dire qu'il faut être un adventiste du septième jour, il faut simplement respecter la loi que Dieu nous donne. Maintenant nous avons cette loi de la liberté qui est l'Évangile. Ceux qui demeurent fermes dans son alliance, il les amènera sur sa montagne sainte, il les réjouira dans sa maison de prière, leurs sacrifices, leurs holocaustes seront agréés sur mon autel. Dieu s'ouvrait aux non-juifs, déjà dans l'ancienne alliance. C'était déjà révolutionnaire pour les juifs. Ça explique pour ceux qui ont étudié le livre des actes, que Pierre devait rendre compte au concile à Jérusalem de ce qui s'était passé, que les non-juifs, eux aussi, recevaient Dieu. Il y avait déjà toutes ces promesses qui étaient faites. Ce n'était pas aussi révolutionnaire que ça le semblait. C'était révolutionnaire parce que les gens ne connaissaient pas à l'époque la parole ou refusaient de la comprendre, refusaient de voir ce qui était dit. Que même les étrangers, même les eunuques, ils allaient être bénis par Dieu. Ils pouvaient s'approcher de la présence de Dieu sur sa montagne sainte. Et il dit cette phrase, « Ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » Alléluia. Ça doit nous réjouir, ça. Parce que Dieu aurait très bien pu dire, « Bon, désolé, vous n'êtes pas né dans l'ancienne alliance, vous n'êtes pas, n'avez pas de sang juif, désolé, vous n'êtes pas à moi. » Mais Dieu aime tous les peuples, les juifs, les non-juifs et les autres, s'il y en avait d'autres. Il rassemble les bannis d'Israël. On se rappelle que c'était dans le cadre du retour de cet exil à Babylone. Mais il va en rassembler plein d'autres. Et ça, ça part de nous. J'en rassemblerai d'autres. Les autres, c'est nous. Jésus, vous vous souvenez, avait cité ce passage, si on se tourne dans Matthieu 21, 13, au début du Nouveau Testament. Là encore, Jésus se mettait en colère contre ceux qui faisaient obstacle à ceux qui désiraient s'approcher de Dieu. Et dans l'Ancienne Alliance, ce n'était pas facile de s'approcher de Dieu. Il fallait être juif. Vous pouviez vous approcher du temple, mais vous restiez dans la cour des gentils, des non-juifs, si vous n'étiez pas juif. Puis si vous étiez juif, si vous étiez une femme, désolé, vous restiez dans la cour des femmes. Puis si vous étiez un homme, mais que vous n'étiez pas un prêtre, vous ne pouviez pas entrer dans l'enceinte du saint lieu. Puis même si vous étiez un juif, mâle, prêtre, waouh, j'ai tout bon pour l'instant. Waouh, ah, vous n'êtes pas le grand prêtre, vous ne pouvez pas entrer dans le saint des saints. Vous ne pouvez pas avoir cette communion intime avec le Dieu créateur des cieux et de la terre. Mais Jésus a fait éclater tout ça. Le voile qui séparait le saint lieu du saint des saints a été déchiré de haut en bas. Ça veut dire que c'est Dieu qui a déchiré, qui a accepté le sacrifice et qui dit « Maintenant, par Jésus, vous pouvez tous venir à moi. Vous pouvez tous avoir la communion intime avec le Dieu de l'univers. » Dieu a fait ça. Et nous, on ne prend même pas le temps, moi-même, je ne prends pas le temps bien souvent de passer un peu de temps de communion avec Dieu. Dieu qui a révolutionné ce qui était dans l'ancienne alliance, mais qui n'était encore qu'une fois, qu'une ombre des choses à venir. Tout ça, c'était pour nous montrer que cet accès que nous avons maintenant jusqu'au trône de la grâce est quelque chose que nous ne devons pas mépriser. C'est quelque chose que nous ne devons pas dédaigner. C'est une chose, un privilège fantastique qui a coûté la vie du Fils de Dieu lui-même. Et Jésus, lorsqu'il voyait que l'endroit où les gentils pouvaient venir et s'approcher, il était devenu une caverne de voleurs, une caverne d'Ali Baba. C'était un endroit où il y avait des changeurs de monnaie. Les gens ne pouvaient pas payer leurs dîmes ou donner des offrandes en monnaie extérieure, la monnaie qui avait cours en dehors du temple, la monnaie romaine. Ils devaient changer et prendre des sicles, des pièces officielles du temple. Et devinez quoi ? Il y avait des changeurs qui s'en mettaient plein les fouilles. C'était une honte. Il y avait des vendeurs de pigeons parce qu'il fallait offrir des sacrifices. Pour ceux qui n'étaient pas très riches, ils pouvaient offrir des tourterelles. C'est ce que Marie, qui n'était pas riche, avait offert. Et on leur disait, faites voir votre pigeon. Oh, regardez cette tache-là. Non, il n'est pas bon. Il faut que vous en achetiez un ici. Et ils faisaient du profit. Ils avaient tourné la soif de Dieu en une raison de faire du lucre, de l'argent. Et ça, ça mettait Jésus en colère. Et ça devrait nous mettre en colère. Lorsqu'on voit à la télé des télévangélistes qui demandent votre argent pour prier pour vous, ça devrait vous mettre en colère. N'allez pas leur envoyer votre argent. Et sachez que Dieu est en colère et qu'un jour ils auront à répondre de leurs actes. Et donc vous savez ce que Jésus a fait, il a formé un fouet, il a pris des matériaux, il a renversé les tables, il a crié, il est écrit « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs ». Il n'y a pas de place pour l'argent dans la religion. L'argent, il appartient à Dieu. L'argent, c'est une ressource que Dieu vous confie pour faire avancer son royaume, non pas pour enrichir le pasteur ou tel mouvement ou telle église. Soyez très prudents, mais ne soyez pas radins avec le Seigneur. Amen. Il a réconforté ceux qui étaient affligés, les eunuques qui n'avaient pas le droit d'entrer dans l'assemblée, de s'approcher de Dieu, les étrangers, les païens, les gentils, ceux qui n'avaient pas eu le privilège de naître dans la race juive. Maintenant, il va condamner les méchants, il va affliger ceux qui se sentent confortables. Il réconforte les affligés, il afflige les confortables. Cette phrase a été utilisée pour Madame Roosevelt, la veuve du président. C'était une femme de grande qualité morale qui faisait beaucoup de bien autour d'elle et qui reprenait ce qui faisait du mal. Et là, il va faire des reproches aux chefs religieux et puis aux idolâtres. Verset 9. « Vous tous, animaux des champs, venez pour manger. » Vous tous, animaux de la forêt, ces guetteurs sont tous aveugles, ils ne reconnaissent rien. Ce sont tous des chiens muets, incapables d'aboyer. Ils ont des rêveries, se tiennent couchés, aiment à sommeiller. Et ce sont des chiens voraces qui ne savent pas se rassasier, ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie, chacun selon son intérêt exclusivement. Venez, je vais chercher du vin et nous nous enivrerons de liqueurs fortes. Nous en ferons autant demain, il en reste en grande abondance. De quoi s'agit-il? C'est là que des fois on lit sa Bible, parce qu'on a un plan de lecture, on a 5 minutes pour lire 3 chapitres d'Ésaïe, et on file. Et puis on se dit, ouais, les animaux des champs vont manger, il y en a des chiens. Oups, il est 8h10, il faut que je parte, je vais rater mon bus. Ça rappelle des choses à certains, on dirait. Alléluia. Si vous avez du mal à lire la Bible en un an, lisez-la en 2 ans. Si vous avez du mal à la lire en 2 ans, lisez-la en 5 ans. Mais lisez-la en comprenant ce que vous lisez. Amen. Les animaux des champs, venez pour manger. Il appelle des puissances étrangères à venir punir Israël, à venir punir les Juifs et notamment les Juifs religieux, les responsables religieux qui sont des guetteurs qui sont aveugles. Est-ce que vous embaucheriez quelqu'un pour surveiller qui ne voit pas? Ils ne reconnaissent rien, ils y voient que dalle. Ce sont tous des chiens muets. Ils sont embauchés pour avertir du danger. Mettre en garde les assemblées. Mais ils sont comme un chien de garde qui serait muet. Oh, fais peur ton chien. incapable d'aboyer. En plus, il se moque du bien-être du troupeau. Il cherche à profiter de la religion pour se servir, pour eux-mêmes. Ah, ils aiment roupiller, ils aiment dormir, ils n'aiment pas qu'on les dérange. Quand il s'agit de leurs intérêts, ils sont voraces. Ils ne savent pas se rassasier, ils en veulent toujours plus. Et c'était l'évangéliste qui vous dit de continuer à donner leur argent, que si vous ne donnez pas assez, ils vont être obligés de quitter les ondes. Bon débarras, merci Seigneur. Ils se tiennent couchés, ils aiment à sommeiller, ils ne savent pas se rassasier. Ce sont des bergers qui ne savent rien comprendre. Tous suivent leur propre voie. C'est un passage qu'on a déjà vu, une expression qu'on a vue dans Ésaïe 53:6, qui parle que nous sommes tous des pécheurs, que chacun suit son propre chemin et que l'Éternel a fait retomber sur lui, parlant de Jésus, la faute de nous tous. Et eux disent, venez, je vais chercher du vin, nous nous enivrerons de liqueurs fortes. Ils pensent qu'à eux-mêmes. Là aussi, vous devez exercer du discernement. Lorsque quelqu'un dit vous servir, soyez sûr qu'il ne se serve pas sur vous-même. Nous nous enivrerons de liqueurs fortes. Et puis, ils ont cette foi aveugle dans le lendemain. Nous en ferons autant demain, vous en faites pas, il en reste en grande abondance. Et ça, c'est la tendance de l'homme de penser que demain va toujours être mieux qu'aujourd'hui. Ça a été le problème de la bourse. Normal qu'il y a toujours plus d'argent, on ne sait pas d'où vient cet argent, mais il y en a toujours plus et on devient tous plus riches. Jusqu'au moment où la bulle éclate et beaucoup de gens sont laissé dans la misère. Verset 57, ça aussi c'est un passage qu'on a du mal à comprendre si on le lit avant de prendre l'autobus, en courant, en prenant son café. Le juste périt et nul ne prend la chose à cœur. Les hommes de bien sont enlevés et nul ne comprend que le juste est enlevé pour échapper au malheur. Il entrera dans la paix, il reposera sur sa couche, celui qui suit le droit chemin. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'en fait on vit dans une société qui est si mauvaise que pour trouver la paix, le meilleur moyen c'est de quitter cette société, c'est de mourir. Et c'est vrai que souvent nous avons du chagrin, nous pleurons ceux qui partent du monde des vivants, mais ils partent du monde des morts vivants pour aller trouver la vraie vie. Si la personne qui est décédé, connaissait Jésus, nous devrions nous réjouir. Ces personnes ont cessé de souffrir dans un monde où le juste est maltraité. Et on peut voir aussi dans ces deux versets une description de ce qui se passera avant la grande tribulation, dans l'enlèvement d'Église, où des justes partiront et personne ne semblera s'en soucier. Mais celui qui suit le droit chemin entrera dans la paix. On a parlé de la paix, on va y revenir dans Galates. Donc là, il réconforte ceux qui se disent « mais on peut vivre dignement pour le Seigneur et on meurt, on nous maltraite, on est persécuté ». Aujourd'hui encore, dans notre monde, il y a des chrétiens persécutés pour leur foi, des justes qui périssent et personne ne semble s'en soucier. Verset 3, « Mais vous, approchez ici, fils de celle qui tire des présages, race adultère qui te prostitue, de qui vous moquez-vous? Contre qui ouvrez-vous une large bouche et tirez-vous la langue ? N'êtes-vous pas des enfants révoltés, une engeance, c'est-à-dire une génération pleine de fausseté, s'enflammant près des térébintes, c'était des chênes, ou sous tout arbre verdoyant, égorgeant les enfants dans les ravins sous des fentes de rochers? C'est dans les pierres polies du ravin qu'est ton partage, voilà ton lot. C'est à elle que tu verses des libations, que tu fais des offrandes en holocauste. Puis-je me consoler de tout cela? C'est sur une montagne haute et élevée que tu dresses ta couche, c'est aussi là que tu montes pour offrir des sacrifices. Derrière la porte et son encadrement, tu mets ton mémorial. Car loin de moi, tu te découvres et tu montes, tu élargis ta couche, il en est avec qui tu pactises, tu aimes leur couche, tu les contemples. Tu fais le voyage auprès du roi avec de l'huile, tu prodigues tes parfums, tu envoies loin tes émissaires, tu les fais s'enfoncer jusqu'au séjour des morts. À force de marcher, tu te fatigues et tu ne dis pas « j'y renonce ». Tu trouves encore de la vigueur dans ta main. Aussi n'es-tu pas abattu. Et qui te donnait de l'inquiétude? Qui craignais-tu pour me tromper, pour ne pas te souvenir, te soucier de moi? On va s'arrêter au verset 10 pour l'instant. Là encore, c'est un passage qui peut étonner. Notez tout d'abord la condamnation de l'horoscope. Dans le Deutéronome 18-10, dernier des cinq livres de la Torah, du Pentateuque, j'ai dit Deutéronome 6-9, je crois. Non, c'est 18, pardon. 18-10. Ça, c'était les promesses au peuple juif lorsqu'il leur entrerait en terre promise. Verset 9. « Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, » tu n'apprendras pas à imiter les pratiques horribles de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui des recours à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir. Personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces horreurs que l'Éternel, ton Dieu, va déposséder ces nations devant toi. Tu seras entièrement consacré à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu déposséderas écoutent les tireurs de présages et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Et là, tous ces tireurs de présages, vous pouvez ajouter les horoscopes, les diseuses de bonne aventure. Alors vous me dites peut-être, mais Pierre, c'était l'ancienne alliance. Justement, l'idée c'était de ne pas recourir à des techniques qui permettaient de se confier en autre chose que Dieu. Et ça n'a pas changé, au contraire, c'est accentué. N'ayez aucun recours pour connaître le futur qui appartient à Dieu. Et c'est insidieux parce qu'on vit dans une société où on bannit le mot de Dieu, l'évangile est interdit en public, on ne peut pas en parler. Mais dans les bâtiments publics, on représente les signes du Verseau, les horoscopes. Et n'est-ce pas merveilleux qu'en fait, les signes du Verseau, de l'horoscope, décrivent si bien les personnalités des différentes personnes. Tu es Verseau toi aussi? Oh, ben c'est normal qu'on ait ces atomes crochus ou... Arrêtez, c'est interdit aux chrétiens. Et il y a peut-être une vérité des fois dans ces signes, parce que c'est inspiré par l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on regarde la création au lieu du créateur. On va voir les étoiles, on dit tiens, il y a trois étoiles, là je vois une Lamborghini. Non, je vois une balance. Ouais, d'accord. Et toi tu es né quand cette balance, donc ta vie va être comme ça. C'est absolument ridicule, imbécile, stupide. On est enregistré, donc je vais me retenir. Mais c'est vraiment de la bêtise absolue. Et pourtant, je sais qu'on a tendance à... Il y en a dans tous les journaux. Il y a les mots croisés, il y a l'horoscope à côté. On fait le sudoku, on ne trouve pas, on regarde l'horoscope. Il y en a qui font ça, hein. Ah, je vous connais. Pas d'horoscope. Dieu choisit de nous révéler ce qu'il veut. S'il ne nous révèle pas le futur, c'est qu'il sait qu'on ne serait peut-être pas capable de le recevoir. Et il nous demande de lui faire confiance, de mettre notre main dans sa grande main et de dire « Papa, je te fais confiance ». De qui vous moquez-vous, race adultère qui te prostitue? Le peuple juif et l'Église va être l'épouse de Jésus-Christ. La relation entre Dieu et les hommes est souvent comparée à une relation de mariage entre son peuple et lui. C'est comme un mariage. Lorsqu'on va vers les faux dieux, c'est comme on commet l'adultère. À l'époque, il y avait des dieux de la fertilité. C'était important d'avoir des récoltes, d'avoir des arbres fruitiers qui portent du fruit. Donc on voulait que cette agriculture donne du fruit, qu'elle donne à manger. Et les gens avaient trouvé qu'en fait, ils pouvaient faire des dieux de ces récoltes, des dieux, et puis des dieux de la fertilité. Et puis, pour célébrer la fertilité, qu'est-ce qu'on fait? On fait des orgies sexuelles. Ça marche, ça, c'est bon, ça passe, hop. On a trouvé une bonne raison pour se livrer à l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est comparée aussi à l'adultère. C'est aimer des faux dieux à la place du vrai Dieu. Mais Dieu dit, de qui vous moquez-vous? Galates 6. Ne vous y trompez pas. Regardons ensemble pour ceux qui n'ont pas étudier Galates. Pour les autres, vous connaissez le verset. Maintenant, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Galates 6, 7. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La loi de la récolte. On récolte toujours ce qu'on a semé, la même nature. Deuxième loi, ça prend du temps. Et troisième loi, il y a plus dans la récolte que ce qu'on a semé. Si on a semé à la chair, de la corruption, on va récolter tout ça après un temps. Les mêmes choses en pire. Mais si on sème des bonnes choses, ça prendra du temps. Mais on va récolter des bonnes choses en plus grand nombre, en plus grande intensité. Et eux se moquaient de Dieu. Mais on ne peut pas se moquer de Dieu. On peut penser qu'on lui a caché la vérité. On va voir pourquoi on pense ça un petit peu plus loin. Avançons. Donc il décrit cette prostitution spirituelle qui s'accompagnait d'une orgie sexuelle. Il y avait ces dieux à qui on sacrifiait des enfants. Le dieu Moloch, dont il est question au verset 9, tu le fais le voyage auprès du roi, ça peut être auprès de Moloch. On a trouvé des représentations, des statuettes qui représentaient ce dieu avec des bras étendus devant lui. Et on a trouvé dans les récits historiques qu'en fait on sacrifiait, on faisait chauffer au rouge, au blanc, ces statues métalliques. Et on mettait des enfants, des bébés, des nourrissons en offrande pour la fertilité. Comme notre esprit peut être perverti. Un œuf, un nourrisson, là, ah c'est fertile, bon tiens on va offrir ça à Dieu pour qu'il nous bénisse. Et Dieu ne pouvait pas tolérer de telles horreurs. Et Dieu veut nous parler aujourd'hui. Les gens sacrifiaient des dieux, des enfants en se livrant à des orgies, ils sacrifiaient des enfants pour leur plaisir. Et aujourd'hui, on vous dit qu'on doit absolument laisser la voie ouverte à la femme qui veut se débarrasser de son fœtus, c'est plus un enfant, elle a le droit de le faire. Il faut militer pour ça, sinon on régresse nos libertés, nos... Attendez, on avorte aussi des petites filles. J'aimais bien ce poster qui montrait une petite fille à l'intérieur du ventre de sa maman qui disait « Égalité des droits ». Elle aussi voulait militer, dire « Laissez-moi la vie !» Pas d'horoscope, pas d'avortement. Il y a des choses claires et nettes pour le chrétien. Il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas à essayer d'excuser. C'est un principe. Maintenant, encore une fois, Dieu afflige ceux qui sont confortables, mais il réconforte ceux qui sont affligés. Et je suis sûr que dans un groupe comme le nôtre, il y a peut-être des femmes qui sont passées par l'avortement. Sachez qu'il y a le pardon de Dieu. Sachez que le sang de Jésus couvre tout. Et vous pouvez demander pardon et Dieu va vous réconforter et Dieu vous pardonne. Mais de grâce, n'allons pas militer pour le droit à l'avortement. N'allons pas non plus tuer ceux qui se livrent à l'avortement. Ça serait aussi ridicule que certaines choses dont nous avons parlé. Croire que notre destinée est faite parce qu'il y avait des étoiles à un moment donné. Il décrit ce qui se passait. Ils allaient offrir des sacrifices, se livrer à des orgies sexuelles sur les collines, sous les arbres bien verts, signe de fertilité. Ils envoyaient des émissaires auprès de rois impies, de rois païens. Ils étaient fatigués, ils disaient « j'en peux plus », mais ça ne les conduisait pas à renoncer à leur mauvaise voie. Pourquoi, verset 11, « Qui te donnait de l'inquiétude? Qui craignais-tu pour me tromper, pour ne pas te souvenir, te soucier de moi? Est-ce que je ne garde pas le silence, et même depuis longtemps, c'est pourquoi tu ne me crains pas? Je vais annoncer ta justice et tes œuvres, elles ne te profiteront pas. Quand tu crieras que la foule de tes abominations te délivre, un vent les emportera toutes, un souffle les enlèvera, mais celui qui se réfugie auprès de moi héritera le pays et entrera en possession de ma montagne sainte. » On ne se moque pas de Dieu. Le fait que la récolte prenne du temps, ça ne veut pas dire que la récolte ne va pas arriver. Et souvent, parce que Dieu ne nous a pas tout de suite, lorsque nous péchons, nous pensons que ça veut dire que c'est OK. Hop, j'ai fait ça, je sais que c'est mal, je pensais que Dieu allait me punir, mais le lendemain j'ai été encore béni, ça ne doit pas être aussi grave. Non, Dieu garde le silence parce que c'est le temps de la patience. Il veut qu'aucun périsse, mais que nous venions tous à lui dans la repentance. Et la chose la plus grave qu'on puisse faire, en tant que chrétien notamment, c'est prendre la patience de Dieu pour du laxisme. Prendre le fait qu'il ne nous punit pas tout de suite, donc ce n'est pas grave. Ce serait une grave erreur. Encore une fois, on ne se moque pas de Dieu. Dieu leur dit, quand tu as des difficultés, va voir tes abominations, va voir tes faux dieux, tes idoles. Va voir si elles te soutiennent, va voir si elles te délivrent. Les idoles, vous dites, mais moi j'ai pas d'idole chez moi, j'ai pas de statuette. Mais qu'est-ce qui prend la première place dans votre vie? Est-ce que c'est votre carrière? Est-ce que c'est votre maison? Est-ce que c'est votre richesse? On sait qui on sert lorsqu'on voit à qui on donne son temps, son argent, son énergie. Une idole, ça peut être, même pour moi, ça peut être le ministère. Est-ce que je donne tout pour servir, pour me servir à travers le ministère? Et je laisse l'Esprit Saint vous parler à chacun et vous dire qui tu sers-tu vraiment? Dieu nous met en garde, mais il nous réconforte lorsqu'on vient à lui. Celui qui se réfugie auprès de moi héritera le pays, il entrera en possession de ma montagne sainte. Il continue, promesse de pardon, verset 14, il dira « Frayez, frayez, préparez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, Car ainsi parle le Très-Haut dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Je demeure dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais aussi avec l'opprimé et celui qui est humilié dans son esprit, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs opprimés. Toujours cette caractéristique de la compassion de Dieu, de son aversion à l'orgueil, au faux Dieu, à l'idolâtrie. Mais dès qu'on s'humilie, dès qu'on demande pardon, le pardon est accordé. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle indignation quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les êtres que j'ai faits. À cause de son avidité coupable, je me suis indigné, je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation, mais il a suivi rebelle la voix de son cœur. J'ai vu ses voix, mais, un de ces grands mais dont nous avons parlé dans l'étude de Galates, mais je le guérirai et je le comblerai de consolation, lui et ceux qui sont en deuil avec lui. Je mettrai la louange sur les lèvres, paix, paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer et dont les eaux agitent la vase et le limon. Il n'y a point de paix, dit mon Dieu, pour les méchants. Nous avons vu en étudiant Galates, Jordan a très bien explicité ce concept de paix. Le mot paix, le mot shalom, c'est plus que l'absence de conflit. C'est une harmonie, ce sont des relations dans tous les domaines qui sont justes, qui sont bonnes. Et il disait qu'en fait, on a tendance à voir la paix comme une absence de conflit. Et il prenait l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale. La paix a été signée, mais la paix n'était pas la paix biblique tant que la reconstruction n'avait pas pris lieu. Tant qu'il fallait déblayer des gravats, enterrer des morts, c'était pas ça, la paix dont parle la Bible. La paix de la Bible, c'est l'abondance avec Dieu, c'est la relation avec Dieu qui est harmonieuse, c'est la relation avec nos semblables qui est harmonieuse. La paix, ce mot de shalom, c'est quelque chose de très beau, de très riche. Et Dieu nous dit que celui qui vient à lui, celui qui est humble devant lui, il lui donne cette qualité de relation avec lui et avec les autres. Il y a la paix, il y a la prospérité intellectuelle, la prospérité spirituelle qui peut s'accompagner de prospérité matérielle, pas nécessairement, mais Dieu est tout à fait à même de bénir et il va prendre soin de vos besoins. Par contre, le méchant, celui qui rejette Dieu, celui qui continue à se moquer de lui, il n'y a point de paix pour lui. On voit des gens très riches. On voit leur visage, on n'a pas envie d'échanger notre situation avec eux parce qu'il y a tout ce stress, tous ces soucis. C'est l'histoire du savetier et du financier pour ceux qui connaissent La Fontaine. Les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer, dont les eaux agitent la vase et le limon. Paix à celui qui est loin et à celui qui est près. Celui qui était près, c'était le peuple juif, celui qui était loin, c'était les Niçois. Amen.